25.
Seigneur, qu'est-ce que je vois là?
Les paroles de Wendy étaient étouffées par la main qu'elle plaquait sur sa bouche. Personne ne répondit. Tous avaient les yeux fixés sur l'écran. Luc était aussi pétrifié par l'étonnement et l'effroi que les autres. L'arrière de l'arrière, le pavillon A, Gorky Park, était une longue pièce haute de plafond qui ressemblait, songeait Luc, à ces usines désaffectées où se déroulaient les fusillades à la fin des films d'action qu'il aimait regarder avec Rolf il y a 1000 ans, quand il était encore un enfant, un vrai. Elle était éclairée par des tubes aux néons grillagés qui projetaient des ombres et conféraient au décor une ambiance aquatique irréelle. Les fenêtres hautes et étroites étaient protégées par des grillages plus épais encore. Il n'y avait pas de lit, uniquement des matelas. Certains avaient été repoussés dans les allées, deux étaient retournés, un autre reposait mollement contre un mur de parpaing, semblable à un ivrogne, maculé d'une substance jaunâtre qui était peut-être du vomi. Une longue rigole où coulait de l'eau longeait un des murs, sur lequel on avait inscrit au pochoir « Vous êtes des sauveurs ». Une fille, totalement nue, à l'exception d'une paire de chaussettes sales, était accroupie au-dessus de la rigole, main sur les genoux, en train de déféquer. Un bruissement de tissu se produisit lorsque la blouse frotta contre le téléphone de Maureen et l'image fut momentanément masquée. Quand elle réapparut, la fille s'éloignait d'une démarche titubante et l'eau de la rigole emportait ses excréments. Une employée portant l'uniforme marron des femmes de ménage utilisait une sorte de gros aspirateur pour nettoyer ce qui ressemblait encore à du vomi ou à de la merde et à des aliments renversés. Apercevant Maureen, elle la salua d'un geste et prononça des paroles inaudibles, non pas uniquement à cause de l'aspirateur, mais parce que Gorky Park était un asile d'aliénés où se mêlaient les éclats de voix et les cris. Une fille exécutait des roues dans une des allées encombrées. Un garçon boutonneux passa. Il portait un slip sale et des lunettes pleines de traces qui glissaient sur son nez. Il braillait « Ya, 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 ya » en se martelant le crâne à chaque syllabe. Luc se souvint que Kalisha lui avait parlé d'un garçon à lunettes avec des boutons sur le visage. C'était lors de sa première journée à l'Institut. On dirait que Petey est parti depuis une éternité alors que c'était juste la semaine dernière, avait-elle dit. Ce garçon était là. Du moins, ce qu'il en restait. Little John, murmura Luc. C'est son nom, je crois. Peter Little John. Personne ne l'entendit. Tous les autres semblaient hypnotisés par l'écran. En face de la rigole destinée à évacuer les déchets, une longue auge reposait sur des pieds en acier. Deux filles et un garçon se tenaient devant. Les filles se servaient de leurs mains pour porter à leur bouche un infâme magma brunâtre. Tim, qui regardait tout cela avec un mélange d'incrédulité et de dégoût, trouvait que ça ressemblait à des Maypo, les céréales de son enfance. Le garçon, lui, plongeait carrément le visage dans le magma, les bras écartés, faisant claquer ses doigts. D'autres enfants allongés sur les matelas contemplaient le plafond. Leurs visages étaient tatoués par les ombres des grillages. Alors que Maureen se dirigeait vers la femme à l'aspirateur, sans doute pour la relayer, l'image s'arrêta, remplacée par l'écran bleu. Ils attendirent pour voir si Maureen allait réapparaître dans son fauteuil, peut-être pour offrir davantage d'explications. En vain.
« Nom d'un chien, c'était quoi ça ?»
demanda Frank Potter.
« L'arrière de l'arrière, » répondit Luke.
Plus pâle que jamais.
Qui donc peut mettre des enfants dans...
Des monstres, dit Luc.
Il se leva, porta sa main à sa tête et tituba. Tim le retint.
Tu vas tourner de l'œil?
Non, je sais pas, faut que je sorte. Pour prendre l'air, j'ai l'impression que les murs se rapprochent.
Tim interrogea du regard le shérif John qui hocha la tête.
Emmenez-le dans la ruelle et essayez de le requinquer.
Je viens aussi, dit Wendy. Il faut quelqu'un pour ouvrir la porte.
Celle-ci, située à l'extrémité de la zone de détention, portait la mention « Sortie de secours sous alarme ». Wendy utilisa une des clés de son trousseau pour la déconnecter. Tim poussa la barre antipanique d'une main. De l'autre, il conduisit Luc, qui ne titubait plus mais demeurait affreusement pâle, dans la ruelle. Tim savait ce qu'était le stress post-traumatique, mais il n'en avait vu les manifestations qu'à la télé. Aujourd'hui, il les voyait devant lui. Chez un gamin encore trop jeune pour se raser.
Ne marchez pas sur les affaires d'Annie, dit Wendy. Surtout sur son matelas gonflable, elle ne serait pas contente.
Luc ne demanda pas ce qu'un matelas gonflable, deux sacs à dos, un caddie de supermarché à trois roues et un sac de couchage roulé faisaient là. Il marcha vers la grand-rue, lentement, en prenant de grandes inspirations. Il s'arrêta et se pencha en avant, main sur les genoux. « Ça va mieux ?» demanda Tim. « Mes amis vont les libérer, » dit Luc, toujours plié en deux. « Qui ça ?» demanda Wendy. « C'est... » Elle ne savait quel terme utiliser. Ça n'avait pas d'importance, car Luc semblait ne pas l'écouter.
« Je ne peux pas les voir, mais je sais. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais je sais. Je pense que c'est l'avorton. Avery, je veux dire. Kalisha est avec lui. Nikki aussi. Et George. Ils sont forts. Tous ensemble. Ils sont forts. »
Luc se redressa et se remit à marcher. Au moment où il débouchait de la ruelle, les six lampadaires de la grand-rue s'allumèrent. Il regarda Tim, puis Wendy, stupéfait.
« C'est moi qui ai fait ça ?»
Wendy ne put réprimer un petit rire.
« Non, mon grand. C'est leur heure. Allez, on rentre.
Un des coquins du shérif John te fera du bien. » Elle posa la main sur son épaule. Luc se dégagea.
« Attendez. »
Un couple traversait la rue en se tenant par la main. L'homme avait des cheveux blonds, courts. La femme portait une robe à fleurs.